Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien.
Un petit peu de vélo pour venir nous retrouver ?
À pied.
Ah, mais c'est aussi bien.
De Toulouse, c'est avec du soleil, bien. Heureusement.
Eh oui, le temps est très, très changeant en ce moment.
Ah oui.
C'est pour ça que finalement, quand on est dans une salle de cinéma, on est à l'abri de toutes ces vicissitudes qui sont liées à la pluie.
On ne voit pas le temps passer.
Exactement.
Le temps dans tout le sens du terme.
Alors, Laurent, vous allez nous parler de films à voir à la télé. Combien ce soir ?
Eh oui, on peut rester à la maison, bien au chaud parfois. Et j'ai sélectionné 5 films pour passer une bonne soirée de cinéma tranquillement chez soi. On peut aussi éteindre nos écrans et à ce moment-là, il y a un conseil de BD sur le cinéma.
Ah, mais monsieur est...
Enfin, j'aime bien les bandes dessinées.
Et lecteur, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Oui, les bandes dessinées, les livres, les romans, les essais.
Tout.
Et toutes ces sortes de, d'écrits que la littérature peut nous proposer.
Bien sûr.
Et vous en êtes l'intermédiaire, je vais y arriver. Avec nous également, il est là, Guillaume Sidom, alors que... Tout le monde était inquiet pour lui. Maintenant, ses fans sont rassurés, elles sont là. Vous ne les entendez pas crier, mais elles sont là. Tel le vent qui bruisse dans les feuilles. Dites-nous, Guillaume Sidom.
Bonsoir, les maris. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, ce soir, le regretté Jean-Luc Godard a dit de ce film « C'est le cinéma à lui tout seul quand l'ennemi public est à la fois bourreau et victime. »
Oula. C'est inquiétant, tout
oui,
ça.
Inquiétant,
ouais, c'est inquiétant,
très inquiétant,
hein.
Déjà des frissons.
Ah oui, oui, on a peur. Notre homme de loi des séries, Grégory Com, aura la dent dure ce soir. Quelque chose me dit que le Prince des Dragons n'a pas été à la hauteur de ses attentes. C'est une série animée qu'on peut voir sur Netflix et il vous dit tout à l'heure, dans son tribunal des séries. Et là, il y a coup sûr, il aura la robe de procureur, c'est certain. Ce soir, dans le panier de l'ouvreuse, il y aura l'affiche de la semaine. L'ouvreuse va la scruter avec vous, Laurent Martin. Heureusement que vous êtes là pour l'aider. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran, juste avant celle sur le petit, mais on vient d'en parler. Et puis... Bien sûr, il y aura les coups de cœur de l'ouvreuse, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, voire des expositions qu'on a envie que vous alliez voir et admirer ou regarder de notre part. Et avec nous ce soir, incroyable, elle est là. Elle était déjà revenue l'année dernière, on savait qu'il y avait eu un moment de suspens dans le Festival des cinémas indiens, puisque c'est de ça dont nous allons parler avec vous. Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Alors comment allez-vous à quoi une petite semaine ? Une semaine pile, puisque ça commence mercredi prochain. 8 jours. Comment, dans quel état êtes-vous ?
Épuisé, mais enthousiaste. C'est bon, on est fin prêt.
Ah, c'est quoi être fin prêt pour quand on organise un festival ?
C'est une méthode Coué, je pense.
Il y a toujours quelque chose qui...
Toujours, tous
les petits
jours.
Problèmes de dernière
tous
minute à résoudre.
Toujours.
Qui inquiète. Alors, il y a de bien belles choses que vous nous proposez cette année. Alors, le Festival des cinémas indiens, c'est bon d'insister sur le pluriel, parce que l'Inde étant un grand pays, avec beaucoup de régions, il y a beaucoup de cinématographies et beaucoup de langues différentes, finalement.
C'est exact. Alors, il y en a 22 officiels, mais il y en a plusieurs centaines, voire des milliers.
Vous parlez des langues, là ?
Oui.
Pas des régions.
Ah, les régions, il y en a beaucoup aussi.
Non, il y en a beaucoup. Comment arrivez-vous à construire, à bâtir votre programmation ? Est-ce que c'est facile d'obtenir un film indien ?
Ce n'est pas facile du tout. Et c'est encore moins facile de composer une programmation qui soit à peu près équilibrée, qui fasse appel à plusieurs genres, plusieurs cultures. Et en pensant aussi au public, c'est-à-dire en même temps en prenant quelque chose qui puisse leur plaire et en même temps qui les sorte des sentiers battus. Donc ce n'est pas facile. Et puis il y a aussi toute la partie qu'on ne voit pas quand on est spectateur, qui est négocier les films et faire les préparations des copies françaises, puisque tous ces films-là, là on est sur quelque chose de l'ordre de 80%, 90% d'inédits en France.
90% d'inédits. C'est ce qui fait aussi la marque d'un festival, non ? Le pourcentage d'inédits.
C'est vrai. c'est vrai. Mais alors, je ne vais pas prétendre que les autres festivals ont la part facile, pas du tout. Mais c'est vrai que ça reste très compliqué de travailler entre l'Inde et la France. Ce sont des fonctionnements très différents. Et leurs films sont rarement préparés pour le public français. Donc le challenge est assez élevé, oui.
Et il me semble, pour voir la programmation de différents cinémas, le Pathé Wilson, pour ne pas le citer, qu'il arrive fréquemment, toutes les semaines, qu'il y ait un film indien programmé.
C'est vrai aussi. C'est récent.
Oui.
Nous, on a commencé pour le festival, ce n'était pas du tout le cas. Pour autant, ce sont des films, des blockbusters en fait. Ce sont des films mainstream. Nous, on est vraiment focalisés sur le cinéma indépendant. La plupart des films qui sont présentés, là, sur cette programmation, tous les films sauf deux, sont en quête d'un distributeur, y compris en Inde. Et donc, c'est assez intéressant de faire découvrir ce cinéma-là. Et eux sont très, très attentifs au retour qui sera fait sur leurs films ici, par rapport à l'Inde.
Est-ce que quand vous bâtissez la programmation, vous faites en sorte de donner un regard assez large de ce qui peut se produire, de ce qui se produit même en Inde.
Alors là, on parle de production cinématographique.
Oui.
On essaye. Bon, c'est toujours un peu biaisé, hein, parce qu'il y a ce que nous, on va voir, mais c'est aussi ce qu'on nous propose. Même si on va chercher, il y a des films qu'on ne nous propose pas. Oui, on essaye de proposer des choses très différentes, et c'est le cas là. En l'occurrence, on a le film d'ouverture, c'est un film qui est finalement assez littéraire, inspiré, dont la base est une nouvelle de Satyajit Ray. Donc c'est toute une école du cinéma, une école de la culture qui date d'il y a quelques décennies et pourtant qui est toujours aussi parlante. Et nous avons aussi beaucoup de jeunes réalisateurs. Nous avons énormément de premiers films sur cette édition. Et en plus, je le dis là, j'aurai peut-être l'occasion de le redire dans l'émission, je suis super fière parce que nous avons enfin atteint la parité dans les longs-métrages réalisateurs-réalisatrices. Donc, il y a beaucoup de premiers films de réalisateurs et surtout de réalisatrices.
Ah, donc il y a autant de réalisateurs que de réalisatrices.
Dans cette sélection-là en long-métrage, oui, ça fait plusieurs années que j'essayais. Et c'est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de réalisatrices et c'est un grand pays, mais quand même, ça restait très difficile aussi pour tous les aspects que j'ai donnés avant, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient des personnes capables de promouvoir leurs films, des copies qui soient en bon état. Elles et ils, ça, d'ailleurs. Et donc cette année, on y est arrivé et j'avoue que c'était pas gagné. En février, ça l'était pas.
Guillaume.
Oui, on sait qu'il y a un contexte économique qui est compliqué actuellement. Comment vous arrivez économiquement à vivre avec les baisses des subventions au niveau de la culture ?
Alors, c'est vrai que on a connu une belle baisse, mais on a gardé des subventions. Enfin, c'est vrai que je garde en tête que dans certaines villes, pas si loin, il n'y a plus eu de subventions du tout. Nous, on en a eu. C'est difficile. On a été obligés de reconfigurer certains points, et en particulier de reconfigurer les invités. Parce que, évidemment, vous vous en doutez, faire venir des personnes de l'Inde ou des États-Unis, pour certains, c'est quand même assez compliqué. On s'en est quand même pas trop mal sorti. La reconfiguration, elle est d'autant plus difficile que vous avez de plus en plus d'intermédiaires entre les réalisateurs et les festivals, ou les réalisateurs, les distributeurs, les producteurs et les festivals. Et donc, nous avons des personnes qui achètent les films, qui ne sont pas des distributeurs, et qui ensuite les mettent en catalogue et les festivals doivent les acheter. Donc, on a beaucoup augmenté notre budget sur ces droits-là. C'est vrai que on le voit, on l'avait constaté, c'était déjà en partie présent avant la pandémie. La pandémie a servi d'accélérateur, je crois que je le disais déjà l'an dernier. Voilà, il y a des changements qui sont à l'œuvre, on s'adaptera, mais c'est vrai que ces changements font qu'on a de moins en moins la main sur la préparation des copies, sur les négociations directes, les échanges directs avec les producteurs et les réalisateurs. Et ça complique un petit peu. Et ça a un coût.
Et c'est ça qui stresse à 8 jours du début du festival.
C'est ça.
On va reprendre cette discussion passionnante avec vous, Frédéric Bianchi, à propos du Festival des cinémas indiens de Toulouse, qui se tiendra donc du mercredi 23, c'est-à-dire mercredi prochain, au dimanche 27 avril. Pour le moment, comme le veut la coutume et l'habitude, tout de suite, on s'installe pour assister à la projection d'un film. Attention, regardez bien le bas de votre poste de radio, il y a les sous-titres.
dir entgegengelaufen.
Aber Kind, das sollst du doch nicht. Du weißt doch warum.
Mais il me semble bien qu'on parle allemand dans ce film. Vous comprenez l'allemand, non, vous, Guillaume Sidom ?
Parfaitement, c'est ma première langue. Pour M. le maudit, donc de Fritz Lang, sorti en 1931 avec l'immense et génial Peter Lorre, c'est Edvard Grieg qui compose en 1875 dans l'antre du roi de la montagne, extrait de Peer Gynt, que vous entendrez à la fin de ma chronique, et c'est sans doute le plan le plus célèbre de l'histoire du cinéma, l'un des plus admirés et des plus analysés, en tout cas l'ombre portée d'un tueur d'enfants sur l'affiche qui met sa tête à prix. C'est M. le maudit, le chef-d'œuvre de Fritz Lang, inspiré d'un vrai meurtrier en série, hein, guillotiné peu après la sortie du film en 1931. La première séquence est un cas d'école. Elle alterne les plans sur une mère harassée par la tâche ménagère et la sortie d'école d'une fillette. La femme comme enfermée entre les quatre murs de la cuisine met le couvert avec pour seule perspective eh bien, la cage d'escalier labyrinthique, plan absolument magnifique et pour seule compagnie les cloches de l'église ou le coucou de l'horloge qui rythme sa journée, une figure asservie par le temps et l'espace en quelque sorte. La fille frêle dans la ville géométrique et monumentale longe le trottoir en faisant rebondir sa balle. Travelling, c'est le chemin de la maison, mais la caméra de quitter progressivement l'enfant pour suivre la balle rebondissant sur l'obstacle, l'affiche. Et sur l'affiche, la silhouette de l'assassin, voix off, comment t'appelles-tu ? Elsie Beckman, Dunkeschön, c'est le merci de la petite à son bourreau qui vient lui offrir un ballon de baudruche. Filmé de haut, de loin, vous ne verrez le maudit que de dos, mais déjà le sifflement et sa signature, on l'a entendu. Peter Lorre, génial, donc sifflote, donc un refrain, le thème est tiré des suites de Peer Gynt, de Grieg, et il est sifflé par Lang lui-même, l'horreur se passe hors champ. À noter que le marchand de ballons, lui, eh bien, est aveugle, comme toute la société allemande rongée par le climat de ces années-là, la République de Weimar, et à noter aussi que le ballon choisi par la gamine a la forme d'un petit corps au visage blanc, troublant. Plan suivant, silence, l'assiette et le regard vide de la maman, la balle de la petite échappée d'un buisson, le ballon de baudruche coincé comme agonisant dans les fils d'un pylône électrique, bientôt emporté par le vent, écran noir, signifié, glacé sans montrer. Le film a commencé depuis environ 8 minutes et la traque du tueur peut démarrer.
C'est l'histoire, la traque ?
Oui, pas seulement. Toute la presse ne parle donc que de ça. Le maniaque, hein, tueur d'enfants qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime chargée de l'enquête. Le commissaire Lehmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gêné par toute cette agitation, la pègre décide alors de retrouver elle-même le criminel. Et elle va charger les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue. Durant cette année 1931, le réalisateur Fritz Lang filme en Allemagne une populace inquisitrice soumettant à son tribunal le meurtrier Hans Becker, interprété par Peter Lorre dans ce qui est peut-être son premier film parlant, donc le chef-d'œuvre M. le maudit, 4 ans après avoir réalisé le chef-d'œuvre qui est Metropolis, une première incursion dans un art qui s'est profondément métamorphosé en peu de temps avec de nouveaux codes que le cinéaste va très rapidement s'approprier. Ici, le son est surtout un facteur d'emphase intervenant pour mettre en évidence des détails essentiels comme la mélodie sifflée par le tueur ou au contraire souligner l'absence d'une petite fille qui tarde à rentrer chez elle. Allant jusqu'à même rendre muette certaines séquences, Fritz Lang plonge dans son film une atmosphère particulière dans un silence assourdissant, comme dirait Albert Camus, d'où émanent des clameurs et de longs débats où le son est là pour mettre en évidence ce qui doit être observé. Dans ce film stupéfiant, nous retenons aussi la maîtrise immédiate qu'a Fritz Lang du parlant. Il va réussir à inventer un mode d'illustration sonore qui lui est propre. Il dissocie fréquemment la bande-son de l'image ou prolonge un dialogue pour le transformer en commentaire off.
Ce n'est pas par hasard que Fritz Lang a choisi Peter Lorre pour jouer M. le maudit.
Et oui, il a un air poupon, banal et s'oppose à l'archétype du criminel, à l'air brutal. Peter Lorre n'a jamais joué de rôle de criminel avant M. le maudit. Fritz Lang veut peut-être nous montrer que le crime fait partie intégrante de la société et qu'il ne peut être limité à la figure d'une personne laide qui porte intrinsèquement le mal, parce que si on est laid, on est inquiétant et donc on est dangereux. Le film pointe évidemment aussi du doigt un phénomène encore courant aujourd'hui où les événements sensationnels relayés par les médias alimente et inspire la création de boucs émissaires, centre de préoccupation du peuple qui trouve en cette haine un os à ronger pour plonger dans le piège pervers de l'insatiable quête de satisfaction, constatant l'année de sortie du film, impossible aussi de ne pas penser à la montée du nazisme, évidemment. Fritz Lang joue sur une ambiguïté permanente entre l'application d'une justice expéditive méritée pour ce tueur d'enfants et d'une véritable justice capable de considérer la pathologie dont il est victime. Le cinéaste propose aussi le tableau d'une humanité déchirée et complexe avec ses vertus et ses travers, ses justices et ses injustices, la foule devenant le véritable catalyseur de la rage des hommes. Cette histoire, l'histoire de M. le Maudit, nous met face à notre propre culpabilité. Mais qui est le coupable dans cette histoire? Le meurtrier qui tue sans raison ou celui qui est fasciné par ce meurtrier qui tue justement sans raison? M. le Maudit n'est pas seulement un monument de mise en scène, c'est aussi un thriller haletant et toujours aussi surprenant. À retrouver donc ce dimanche 20 avril, 14h aux abattoirs à Toulouse, séance présentée en partenariat avec la quinzaine franco-allemande d'Occitanie, dans le cadre du cycle Film Noir jusqu'au 4 mai prochain, en partenariat avec Louvreuse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèque de toulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Rimini Éditions. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
C'est bien l'air siffloté par M. le Maudit qu'on entend là. C'est dans l'antre du roi de la montagne, comme vous l'avez promis, Guillaume Sidom, extrait de Peer Gynt, et c'est Edvard Grieg qui avait composé la musique.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Des bruits d'eau pour plonger dans le programme du Festival des cinémas indiens de Toulouse avec Frédéric Bianchi qui nous accompagne pendant toute cette émission et qui va nous présenter le festival. Cette musique est extraite d'une BO, celle de Village Rockstar, un film signé Rima Das, et vous proposez le volume 2 de ce parce qu'il y a Village, vous proposez Village Rockstar 2, et il y avait eu bien longtemps auparavant un premier volet qui racontait l'histoire de le personnage central était enfant dans Village Rockstar et maintenant elle est adolescente.
C'est aussi un petit clin d'œil, en fait, parce que Village Rockstar a été programmé au Festival des cinémas indiens de Toulouse en avril 2020. Comme vous le savez, l'édition a été annulée.
Ah bon?
C'est-il possible?
Et du coup, quand elle a sorti ce deuxième opus, alors je rassure les spectateurs, l'histoire, évidemment, c'est le même personnage, mais on n'a absolument pas besoin d'avoir vu le 1 pour suivre le 2. Mais c'est vrai qu'on s'était dit que ça serait sympa, en fait. On avait raté cette rencontre-là. Et du coup, on s'est dit, allez, on se lance pour celui-ci. C'est un film, alors c'est pas forcément une histoire percutante, etc. Il y a un côté un peu doigt-mère, mais c'est assez intéressant comme personnage de jeune fille, jeune femme. C'est en douceur, c'est pas un drame avec beaucoup de souffrance ou ce genre de choses. C'est très intériorisé, mais finalement, c'est cette jeune femme qui se rend compte que elle a été soutenue dans ses aspirations, elle a envie, elle a des ambitions, mais c'est pas si simple que ça.
Oui, et ses ambitions, en fait, elle continue à les avoir depuis le premier, même si on n'a pas besoin d'avoir vu le premier, mais elle a appris à jouer de la guitare toute seule, et elle veut devenir guitariste dans un groupe de rock, ce qui explique aussi un petit peu le nom, le titre du film.
Voilà. Et comme elle est dans un tout petit village de la Sam, un endroit où... c'est un peu, c'est pas forcément une ambition très courante, on va dire. C'est déjà pas une ambition très courante, mais alors là, encore moins. Ça prend tout son sens, et c'est là aussi, c'est aussi en ça que réside le titre. Alors le premier opus, Rimada, c'est pas son premier film. Elle a fait beaucoup de films, mais c'est une personne, c'est un peu une femme orchestre en fait. Les premiers films, bon, maintenant elle a un peu plus de budget, mais les premiers films, elle les faisait dans sa cuisine. Hein, elle faisait tout. Elle faisait tout, elle faisait l'histoire, le tournage, les costumes, elle faisait tout elle-même en fait. C'est assez intéressant comme parcours, c'est une réalisatrice très intéressante.
Le festival, est parcouru par la vie, par la musique, puisqu'il y a un film qui s'intitule Rhythm of Daman.
Oui.
Et c'est pas la même histoire.
Pas du tout,
mais il y a aussi ce qui traverse, il me semble, la plupart de ces films, c'est une forme de chronique. Ça dépend des lieux, bien sûr, mais une chronique sociale ou sociétale, la façon dont on vit dans ces régions. Et c'est vraiment très particulier, très différent de ces régions les unes par rapport aux autres.
C'est vrai.
C'est pas aussi prégnant en France. Il n'y a pas de grosse différence entre quelqu'un qui vit à Lille et quelqu'un qui vit à Toulouse. Par contre...
Ça parle d'accent.
Oui, bien sûr. Mais en Inde, c'est différent.
Alors, j'ai envie de dire, il n'y a plus autant de différence entre une personne qui vit à Lille et une personne qui vit à Toulouse.
Oui, mais il y en a eu.
Il y en a eu, et ça ne date pas d'il y a si longtemps. Après, l'Inde est un plus grand pays aussi. Mais c'est vrai. Et alors là, vous avez pris deux films qui sont sur des cultures qui n'ont pas beaucoup de visibilité en Inde, pour le coup. Même si Rimadas, ayant fait un beau parcours de festival, elle est beaucoup plus connue. Et pour Rhythm of Daman, c'est un tambour qui sert pour des cérémonies, en fait. Et ce sujet-là, alors là, je peux vous dire, parce que j'ai fait un petit sondage autour de moi, même s'il est un peu biaisé, pas grand monde ne connaît la population, la communauté qui est à l'origine de ce film-là. En fait, il s'agit de la Black India, c'est-à-dire que il s'agit de la communauté Sidi. Et la communauté Sidi, ce sont les descendants des esclaves africains amenés par les Portugais.
Ah, c'est bien compliqué tout ça.
Ça devient très compliqué. Oui. Et ce n'est pas forcément connu, ne serait-ce qu'en Inde. Mais il faut savoir que leur statut... certes, ils ne sont plus esclaves officiellement, l'esclavage est illégal. Leur statut y ressemble quand même beaucoup.
Ah, ça ne s'arrange pas, ça ne s'est pas tellement arrangé pour eux, finalement.
Non.
Non. On va continuer à explorer le programme particulièrement intéressant que vous proposez, donc du 23 au 27 avril prochain. Mais pour le moment, l'actualité cinématographique repense ses doigts avec vous, Laurent Martin, et l'ouvreuse, bien sûr.
À l'affiche cette semaine, La Réparation, le nouveau film de Régis Farny avec Julienne Saint-Jean et Clovis Cornillac. Quelques heures avant l'attribution de sa troisième étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît mystérieusement. Après plus de 10 ans d'absence, son précédent film Le Temps des Aveux était déjà sorti en 2014, Régis Farnier fait son retour au cinéma avec un récit qui traite justement de disparition. On y suit donc la relation entre le chef d'un célèbre restaurant gastronomique et sa fille de 20 ans qui rechigne quelque peu à prendre sa succession. Et quand ce père donc disparaît mystérieusement lors d'une partie de chasse avec son second de cuisine, sa fille se retrouve seule aux commandes de l'établissement avant de recevoir 2 ans plus tard une étrange invitation à Taïwan où elle décide de se rendre. renouant avec son goût des grandes fresques et des invitations au voyage, notamment en Asie. Le réalisateur d'Indochine propose une mise en scène qui cultive la sensualité, ici essentiellement culinaire, avec un déploiement de moyens visuels qui se mettent au service d'une intrigue que l'on ne dévoilera pas. Alors Louis-Marie, et vous, le fin gourmet, vous avez mis les petits plats dans les grands et vous avez rencontré le réalisateur dans une cuisine.
Dans une cuisine, oui. Presque.
À quelle sauce vous l'avez mangé?
Presque une cuisine. En fait, si on considère que au cinéma, on fait la cuisine quand on regarde l'écran, alors on était dans une cuisine, évidemment. Mais en fait, on était dans une salle de cinéma. Régis Varnier, qui vous avez habitué plutôt à des fresques, le film qui lui avait permis d'obtenir l'Oscar du meilleur film étranger, vous en avez parlé en 93, Indochine,
oui.
C'était plus une fresque, un peu plus grandiloquente. C'est pas le cas ici. Finalement, le sujet est très resserré. Ça tient en deux lignes. Au moment où il va voir son étoile au Michelin, la troisième, oui. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il attend, hop, il disparaît avec son seconde cuisine. Le seconde cuisine, vous l'avez dit, était l'amant de la fille aussi. Voilà. Alors, toutes les suppositions, on voit les bons trains, et puis, petit à petit, vous savez, après les trois premiers jours où il est parti, il a oublié ses clés, vous savez comment ça se passe, mais après, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, après... Ça devient de plus en plus difficile de vivre avec la disparition et le fait d'accepter que finalement cette personne, on ne la reverra plus, ou alors peut-être beaucoup plus tard. Mais pourquoi la réparation alors que c'est une disparition?
Oui, c'est un petit sérieux.
Oui, le titre. Ah ben justement, on a demandé à Régis Varnier d'expliquer pourquoi la réparation.
Je l'ai trouvé assez vite, mais donc j'étais très content. Quand j'ai écrit la scène de Chimène et de Rodrigue, là, va je ne te hais point. Quand elle lui dit, tout le monde le croit, elle dit voilà, mais je suis coupable aussi parce que tout ça est arrivé de ma faute. Il lui dit, tu vas remonter la pente, je veux réparer. Je veux tellement réparer, il n'y a que ça qui compte, dit-il. Là, pour moi, c'est le titre, il est là. Et puis elle aussi, elle répare à sa manière parce que son ambition, c'était pas l'excellence, la perfection, l'anxiété, le boulot, la vie de fou de ces gens qui, en gros, sont accrochés à une étoile, il suffit que la nappe soit pas comme il faut, ils vont perdre l'étoile, enfin, c'est un truc de dingue, et je pense qu'elle voulait vivre autre chose, mais les événements font que elle va reprendre les traces qu'elle voulait surtout pas prendre. Je me dis que quand on a un talent, on n'y échappe pas.
Alors, c'est même dans ses réponses, c'est un peu mystérieux parce qu'il utilise des « il », des « elle », de qui parle-t-il ? Et dévoiler, finalement, ce serait dévoiler l'intérêt du film. Parce que, même si on reste un peu sur sa fin, c'est le cas de le dire, pour un film qui parle de cuisine, oui, c'est un peu paradoxal. Oui. Et on n'est pas, finalement, tout à fait conquis par cette histoire, et peut-être parce que... Alors, il est porté par une actrice extraordinaire, la jeune, vous l'avez dit, Julia de Nunes, toute jeune, qui a été remarquée dans la série Bardot, elle a interprété
Brigitte Bardot.
Ouais. Elle est extraordinaire. Alors, il y a un acteur aussi taïwanais, J.C. Lin, qui est aussi excellent. Alors, l'interprétation est remarquable, certes, mais après, l'histoire traîne un peu et finalement est un peu plaquée. Alors, il fallait y demander à Régis Varnier quel était son choix pour raconter toutes ces choses. Voilà sa réponse.
Je l'ai trouvé assez vite, mais donc j'étais très content.
Non, quand ça, il a déjà dit ça.
Oui.
Il a déjà dit.
C'est un film où j'avais pas beaucoup de sous, qui ne dit pas beaucoup de sous, dit pas beaucoup de temps. Donc, l'exigence du récit, vous devez l'avoir à l'écriture, parce que c'est pas la peine de tourner des séquences que vous garderez pas. Donc, finalement, ça fait que très souvent, je fais des films où il n'y a pas beaucoup de gras, il n'y a pas de scène de liaison. Ça avance, que j'essaie de garder que l'essentiel, quitte à déconcerter un peu. Parce que, à un moment, on voit un mec qui les suit au marché, mais on comprend après que, en gros, Liane l'avait fait venir pour qu'il l'identifie ou qu'il la revoie, et en fait, il n'a pas voulu y aller. Voilà. Mais j'avance comme ça. Mais c'est aussi un choix de raconter les choses, de garder, je pense, est vraiment essentiel.
Alors, il garde l'essentiel, effectivement, mais il garde tellement l'essentiel que de temps en temps, ça échappe un petit peu, parce que le scénario, il y a quelques trous assez énormes. Vous avez suivi la disparition, une falaise. Les deux sont-ils tombés de la même façon, mort ou pas, on ne sait pas. En tout cas, pour l'un, on le voit sur les rochers, l'autre, on ne le voit pas. Bon, toujours est-il que ce qui finalement finit par enivrer, vous l'avez dit, Laurent, c'est le voyage culinaire. C'est ça. Et les voir, en particulier, faire la cuisine à Taïwan, ça, c'est assez extraordinaire.
Oui, ça va manier le couteau, là-bas.
Ah, ouais. Et puis, ils savent faire
les
la
carottes,
cuisine.
Carottes, hop, deux, trois mouvements. Ouais. Petite revue de presse, je sais que vous adorez ça. Entre thriller psychologique, conte de fées onirique et quête de soi, la réparation sculpte tout autant l'univers de la gastronomie que la manière dont un enfant tente de faire un deuil impossible, selon le Figaro. Il faut réussir à surmonter certaines des énormités du scénario pour se laisser embarquer, selon les fiches du cinéma. Le JDD n'a pas aimé, Régis Varnier mêle les genres comme ses personnages, les saveurs, mais la mayonnaise ne prend pas. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir le nouveau film de Michel Leclerc qui s'appelle Le mélange des genres avec Léa Drucker et Benjamin Laverne. C'est l'histoire de Simone, une flic aux idées un peu conservatrices qui est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardy. Pourtant, on lui avait dit de ne pas dire Hardy. Merci Guillaume. Elle enquête sur les militantes qu'elle soupçonne de complicité dans le meurtre d'un mari violent. Et à leur contact, Simone s'ouvre progressivement aux idées féministes. Seulement, voilà, sa couverture est très mince. Et les Hardy devinent qu'il y a une taupe parmi elles et puis elles se mettent à la soupçonner. Or, dans une époque où on nous rabâche qu'on ne peut plus rien dire ou que les artistes parfois s'auto-censurent par peur d'un bad buzz, voilà un film qui tranche parce que son réalisateur, Michel Leclerc, qui a abandonné son supermarché, s'empare d'un sujet de société clivant, c'est-à-dire MeToo. Michel Leclerc ne fait ici que prolonger, de toute façon, ce qui constitue le cœur de son cinéma depuis Le nom des gens, cette manière de parler d'engagement par le prisme d'une espièglerie qui dédramatise les choses sans les nier pour autant. Ce que raconte finalement ce scénario, co-signé comme toujours avec Bamia Kassmi et finement ciselé, c'est l'impact de MeToo chez les femmes comme chez les hommes. L'humour aussi constitue sa boussole, celle qui permet de moquer certains travers, sans jamais abîmer l'affection pour ses personnages. Voilà, un bel exercice de haut voltige, mais ça, Michel Leclerc, il sait très bien le faire. Et un film qui, finalement, fait un bien fou par cette époque un peu tragique. Un film drôle et intelligent, selon Première. Michel Leclerc signe un film qui tacle avec gourmandise le patriarcat selon l'humanité. Un film drôle, acide et tendre. Pour La Croix, petit bémol pour Télérama, de bonnes intentions revendiquées pour un piètre résultat. À l'affiche aussi cette semaine, il y a beaucoup de sorties. On peut voir Rapide de Morgane Dalibert, Aimons-nous vivants de Jean-Pierre Améris avec Gérard Darmon. On peut voir Oxana de Charline Favier, Lettres siciliennes de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza au Régent à Saint-Gaudens, par exemple, avec l'excellent Tony Servillo. On peut voir Toxique de Sole Biovoate à l'américain cosmographe. On peut voir Harvest au Grand Palais à Cahors. Film thaïlandais, ouais. Ça vaut peut-être le détour. Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, de Pat Bunitipat. Gros succès en 2024 en Thaïlande. Un film que vous pouvez voir à l'ABC Toulouse. On peut voir aussi Sinners de Ryan Goodler. Animaux rigolos, un programme de 3 courts-métrages dès 3 ans qu'on peut voir à Rodez, au CGR, au VO à Muret, à l'American Cosmographe ou encore à l'Utopia. Et pour finir, on peut voir Keijo numéro 8, Mission Recon. Daniel, film animé, je vous passe les noms de réalisateurs qu'on peut voir au Pâté la Belge.
Ça claque et ça claque bien, ça. C'est un morceau qu'on peut entendre dans le film de Varsha Bharat qui s'intitule Bad Girl et que vous programmez au Festival des cinémas indiens de Toulouse. Alors je vais m'aventurer à donner le nom de l'interprète, Mahalavika Manoj, mais surtout le titre est compliqué. Please, Yena Padi Pa Kadai. Kadai, oui, quelque chose comme ça. Peut-être, n'est-ce pas, Frédéric Bianchi, vous qui maîtrisez l'indien.
Alors, surtout que ce n'est pas l'indien, mais le tamoul.
Oui, voilà.
Je ne le maîtrise pas du tout. Je suis contente que vous ayez donné cet extrait sur cette musique sur Bad Girl. Bad Girl, c'est un premier film. On s'était vu en juin de l'année dernière pour Shushi Talati.
Oui.
Sur Girls, We Be Girls. Et Bad Girl, c'est... Alors, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même culture, ni rien. Mais il y a quelque chose de commun. Ce sont deux réalisatrices qui ont eu des équipes essentiellement féminines sur leur tournage. La différence pour Varsha Bharat, c'est que son film, en fait, a connu déjà beaucoup de polémiques. Il sort en Inde au mois de mai. Et ça a été très compliqué. Ils avaient très envie que le film vienne sur ce festival, mais c'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité sur les films et qu'il y avait eu une grosse controverse sur ce film lorsqu'il a participé à un festival européen. Pourquoi ? Parce que c'est une jeune femme qui veut vivre sa sexualité, sa sentimentalité, sa vie amoureuse librement. Et cette jeune femme est dans une famille brahmane.
Ah.
Et on touche au conservatisme le plus pur. Et donc, il y a eu quelques controverses, tant sur la thématique d'une jeune femme libre que sur la peinture qui est faite de sa famille. C'est un film que je suis très, très fière de programmer. Bon, il n'y en a aucun dont je ne suis pas fière de la programmation.
Ah bon, on est rassurés.
Celui-ci, c'est vrai que c'est un tel combat sur ce genre de sujet, et qui plus est quand c'est une réalisatrice, on avait vraiment à cœur de la soutenir. Il faut quand même que le public sache que c'est le seul festival qu'elle fait, enfin elle ne viendra pas, mais que le film est programmé dans ce festival, c'est le seul sur les deux mois là avant la sortie, parce que c'est trop compliqué, et qu'ils appréhendent un petit peu la sortie. Par contre, elle a de la chance, elle a une sortie en salle qui est prévue au Tamil Nadu au mois de mai.
Bon, déjà, on peut voir le film jeudi prochain, 24 avril, à 18h, au cinéma Pathé Wilson. Et tout de suite, on retrouve notre homme de loi des séries, Grégory Combe, qui va étrier, bon, je peux vous le dévoiler maintenant, le prince des dragons.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, tout allait trop bien. J'étais heureux, je regardais des séries télé qui fonctionnaient, des animés qui allaient bien, et je me suis dit, bon, ça faisait longtemps que j'avais mis de côté Le Prince des Dragons, qui est un animé que je suis maintenant depuis 7 ans, 7 saisons, qui m'avait laissé un goût amer ces dernières saisons et qui devait conclure à cette saison 7. Et ça devait être un peu l'apothéose de tout ce qu'on nous avait raconté, mais j'avoue, je l'avais mis de côté parce que j'avais un petit peu peur. Je sentais que ça allait dans ses travers les plus absolus, et que ça risquait d'être raté. Eh bien oui, Le Prince des Dragons m'a volé 7 ans de ma vie, j'ose le dire, Louis-Marie, j'ose le dire, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que suivre un agenda politique, et qui ne raconte plus rien, à part des obsessions wokistes de ceux qui ont produit cette série. Alors, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait du fond, et que, en plus, la partie inclusivité était au départ, les 3 premières saisons étaient extrêmement bien faites. Mais à partir de la saison 4, là, on est tombé juste sur de l'agenda politique. Alors, ça parle de quoi, Le Prince des Dragons? C'est une série télévisée de fantasy américaine créée par Aaron Eaz et Justin Richmore, qui est produite par Wonderstorm, et donc qui est diffusée par Netflix. Et la série, en fait, se déroule dans un monde fantastique, qui est celui de Xadia, qui est riche en magie. Mais d'un côté, nous avons les humains qui n'ont pas accès à la magie, et de l'autre côté, les elfes et les dragons, qui, eux, ont accès à cette dite magie. Et les humains ont tué le roi des dragons, et l'œuf de son héritier a disparu. Ce qui fait qu'il y a une sorte de guerre froide entre les elfes et les humains. Évidemment, la série va aller pourquoi il y a eu ce meurtre-là, pourquoi il y a cette guerre froide, qu'est-ce qui les oppose, qu'est-ce qui se passe. Bref. Donc franchement, ça part bien, c'est simple, c'est efficace, mais il y a un aspect géopolitique, différents elfes, différents royaumes humains qui est intéressant. On est dans une série qui se veut très Netflix, très inclusive. C'est-à-dire qu'on est au Moyen-Âge, c'est fantastique, mais c'est un monde qu'ils ont créé d'eux-mêmes. Et effectivement, l'aspect inclusivité est très présent. Et franchement, dans les trois premières saisons, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Ça nous montre qu'un univers de fantasy créé de toutes pièces peut faire de l'inclusivité de façon intelligente, qui ont envie de raconter quelque chose. Et j'étais satisfait parce que je me suis dit, ben, en fait, c'est possible, c'est possible. Arrive la quatrième saison où on est censé aller un petit peu plus loin dans le lore. Ça devient un peu poussif, ça devient un peu long, même si un des antagonistes est particulièrement bien écrit et a des motivations et a un arc presque de rédemption qui est très intéressant. On sent que l'aspect wokiste prend la main et on sent qu'en fait, on ne veut plus raconter une histoire. On veut faire coller ça à un agenda politique. Donc ça déjà, c'est fait, en fait c'est mal écrit, c'est fait de façon vraiment très forte, c'est-à-dire que le personnage va arriver, va dire « Bonjour, je prends juste cet exemple parce qu'il est marquant, un jour je te présenterai mes deux mamans, c'est pas le problème qu'elle ait été adoptée par deux femmes, le problème c'est qu'en fait ça ne raconte rien, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ces deux personnes, comment elles se sont rencontrées, comment dans un monde médiéval leur couple a pu se créer, pourquoi il y a eu une adoption d'une petite fille qui va être leur héritière. Tout ça, c'est pas raconté. En fait, c'est juste dire, on a rempli un cahier des charges. Ça, c'est ce qui m'embête. Si on doit faire de l'inclusivité, si on doit mettre des choses comme ça en avant, et moi, ça me convient très bien, il faut écrire une bonne histoire et pas juste dire, regardez, on a fait de l'inclusivité, on est bien, on est le camp du bien. Non, si on fait quelque chose comme ça, encore une fois, allez voir Buffy contre les vampires, le personnage de Willow, son coming out, c'est une masterclass d'écriture. C'est une masterclass d'écriture, il faut revenir à ça. Et là, la dernière saison, patatras, on est vraiment dans cet aspect inclusivité, mais encore, c'est pas ça qui pose problème, c'est que Netflix avait dit clairement aux scénaristes, vous avez une septième saison pour conclure. Il faut conclure tous les arcs scénaristiques. Ils avaient déjà trop étiré. Quatrième et cinquième saison, il ne se passe rien. Et là, ils terminent leur série en laissant ouvert plein de pistes, en ne concluant pas certains arcs de personnages principaux, juste pour dire, pas de souci, on va tordre le bras à Netflix et on va avoir des saisons en plus pour raconter la fin. Netflix qui a dit, ben non, en fait, la série est annulée, vous n'aurez pas de fin. Et Netflix a raison. Ils ont une saison complète pour conclure. Et le fait de ne pas conclure, c'est juste de la pas du gain. C'est pas pour dire je veux raconter une meilleure série parce qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont étendu encore une fois sur ces saisons. Et c'est juste, on veut du fric. Donc, on veut du fric et on se drape du manteau wokiste pour dire qu'on est des gens bien. Non, ces scénaristes et réalisateurs sont des ordures. Pourquoi ce sont des ordures? Parce qu'ils prennent en otage le spectateur qui s'est investi, qui a dépensé du temps pour suivre ces histoires et qui n'aura jamais la conclusion. Et en plus, ils tentent de se draper, encore une fois, de ce manteau de lumière de l'inclusivité sans vraiment raconter de bonnes histoires. D'ailleurs, à la fin, ils créent une ville qui s'appelle Diversité. On ne peut pas rentrer encore plus au forceps leur idée wokiste, mais bon, l'île, on ne dit pas, la ville, on ne nous dit pas comment elle va être construite, on ne dit pas comment les gens y vont y vivre, on ne dit pas comment ça va marcher. C'est juste, on l'a placée, on est des gens du bien. Donc en fait, Le Prince des Dragons, j'ai regardé pendant 7 ans pour bien me rendre compte que c'est nul, ça ne sert à rien. Et donc, clairement, chers auditeurs, je ne vous conseille pas de regarder Le Prince des Dragons. Vous perdrez votre temps. Je vous remercie.
Il lui a fallu 7 ans pour se rendre compte qu'il avait perdu son temps. Terrible.
Et 7 ans de réflexion.
Et les fameux 7 ans.
Vous seriez venu à moi comme à un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait à se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous.
Et oui, son ennemi aurait très peur de vous. Vous l'avez reconnu, c'est le parrain. Bon, c'est pas la voix de Marlon Brando, c'est la voix française de Marlon Brando. Oui. Tiens, juste un mot à propos de cette célébrissime bande originale.
Ça allez, me donne envie chaque fois de manger dans un resto italien.
Eh bien, vous savez que Nino Rota, c'est lui qui l'avait signé, en fait, il a recyclé une ancienne BO. Et oui, il avait écrit un thème à la fin des années 50 pour la comédie Fortunella d'Eduardo De Filippo, c'était en 58, et il a utilisé cette musique qu'il a filée à Coppola, tant et si bien qu'il a été disqualifié de la course aux Oscars. Et oui, c'est pour ça qu'il n'a pas pu participer aux Oscars, et la même année, donc, c'est... Joseph Mankiewicz, en fait, c'est la musique du Limier, signée John Addison, qui obtient l'Oscar de la meilleure musique de film. Voilà, alors, c'est le film que vous avez envie d'aller voir. Eh bien, vous pouvez voir tous les parrains, le 1, le 2 et le 3, en commençant dans l'ordre vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril à 20h30, au Véo de Muret. Ils y sont tous, et puis en plus, il y a de l'animation, et puis en plus, vous pouvez manger, Laurent, comme on mange en Italie. Bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout est là. Ensuite, il y a Frédéric Weissmann à l'American Cosmographe, le grand, le très grand documentariste. On peut voir High School de 62, High School 2, une forme de suite en 1994, et le plus récent des trois, Domestic Violence 2, qui est sorti en 2002. Ça, c'est au Cosmo. Et pour les autres reprises, il y a le Patty Wilson avec Split. Alors ça, c'est vendredi 18 avril à 19h30, le fameux film de Mike Shyamalan où James McAvoy interprète un homme qui a 25 personnalités.
Ah oui.
Ça devient compliqué, mais ça marche diablement bien. Puis du côté de la Cinémathèque, on ne rattrape pas Lola de la galaxie Varda, eh ben oui, Jacques Demy, Nantes, Anouk Emi, tout est là. Donc, vous irez voir Lola au Pathé Wilson jeudi 17 avril à 19h30, et puis sinon, un film culte. Ah oui, alors, ouais, culte, ouais. Le premier film de John Huston, Le Faucon Maltais. Ouais.
Eh oui. D'après le roman de Dashiell Hammett.
Dashiell Hammett, c'est la première fois qu'on voyait Sam Spade, le fameux détective privé, oui, incarné par Humphrey Bogart. Dans le film, il y a un petit jeune aussi qui a un visage poupin, Peter Lorre. Ah, oui.
De Maison du Café. Lorre de Maison du Café.
Peter Lorre de M. Le Maudit.
Oui, 1941.
Bouclé.
10 ans plus tard, un film magnifique. Magnifique. L'histoire importe peu. Et puis, trouver le faucon maltais, pourquoi pas, c'est une statuette, mais après, ce qui s'y passe, bon, après tout. Hein. Voilà.
Je vous conseille aussi l'excellent Assurance sur la mort de Billy Wilder. Billy Wilder, c'est toujours du bon.
Oui, c'est vrai.
Ça sera dimanche à 16h.
Et j'ai pas dit que le Faucon Maltais, c'était vendredi 18 avril à 18h30. Et ça, bien sûr, c'est l'auditorium des abattoirs. Je vais arriver à le dire. Laurent, c'est à vous.
Oui, après le Faucon Maltais, le vrai con Montalbané.
Vous êtes de plus en plus éblouissant.
J'ai même motoflagellé.
Oui. Ouais, vous ferez bien. Hein, vous réciterez 3 patères et 2 avers à la fin de l'émission.
D'accord.
Hein.
Le ciné à la télé, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Zoe, We Miss You de Ken Loach, l'histoire de Rick Turner qui décide de se mettre à son compte pour devenir chauffeur franchisé pour une compagnie de livraison, mais rien n'est rose dans ce milieu. Avec son fidèle scénariste Paul Laverty, Ken Loach dénonce à nouveau avec force les méfaits du libéralisme. Jeudi sur RMC Story 21h, on pourra revoir Mars Attack de Tim Burton avec Jack Nicholson et Glenn Close, hein. Une parodie loufoque et mordante qui rend hommage aux séries B de science-fiction des années 50, c'est assez génial. Vendredi, France 5, 21h, un grand classique, Les Incorruptibles de Brian De Palma, un film de 87 déjà, avec Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, le duel entre Al Capone et Elliot Ness et son équipe, bien sûr, une lutte sans merci qui va s'engager. Un film policier époustouflant et brillamment construit, porté par une distribution superbe. Samedi, 21h, sur France 4, on pourra voir La Petite Bande de Pierre Salvadori. C'est l'histoire de 4 collégiens de 12 ans qui s'embarquent dans un projet fou, faire sauter l'usine qui pollue leur rivière depuis des années. Soutenu par un casting impeccable, une comédie d'aventure assez réjouissante et enlevée. Lundi, Arte, 21h, c'est pour vous, ça, Louis-Marie. Ce sera Jason et les Argonautes,
oh oui,
de Don Chaffé, film de 1963. Déjà à l'époque, on n'avait pas de cheveux. 20 ans après l'assassinat de son père, Jason est déterminé à reprendre le trône de Thessalie sur lequel s'est installé Pélias. Et avant de mettre à exécution son projet, ben, il faut conquérir la Toison d'Or, hein, qui est un gage de paix et de prospérité pour son royaume. Je tourne la page, voilà en direct. Un film d'aventure palpitant et enlevé, devenu culte grâce aux effets spéciaux formidables du magicien Harryhausen. Le conseil de lecture, ce sera une bande dessinée, un tournage en enfer au cœur d'Apocalypse Now, avec un scénario et dessin signé Florence Siloré. Rappelez-vous, Philippines 76, le début d'un tournage qui marque l'histoire d'Hollywood. Typhon, renvoi du premier rôle, climat détestable, maladie tropicale, la drogue, caprice de star, infarctus de l'acteur principal, dépression, enfin, dépassement de budget, enfin voilà, le film catastrophique de Francis Ford Coppola, qu'on retrace ici en bande dessinée. Une très belle bande dessinée que vous pourrez retrouver aux éditions Casterman pour 24 euros. Tenez Guillaume, je vous l'offre.
Eh bien, merci beaucoup Laurent, avec plaisir. Vous me gâtez comme chaque semaine.
Mais vous le méritez. Merci. Voilà, c'est voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect?
Plus traditionnelle, cette chanson-là, on l'entend dans The Storyteller d'Anant Mahadevan. Le prononce-je bien, Frédéric Bianchi?
Je ne sais pas. Je dirais Mahadevan, mais je ne veux même pas l'affirmer.
Alors, ce qui m'a attiré l'œil, c'est que c'est inspiré d'une nouvelle de Satyajit Ray, et c'est sans doute le cinéaste indien, Satyajit Ray.
Satyajit Ray, c'est aussi un homme orchestre, hein, c'est ouais. Un cinéaste, un costumier, un compositeur, un écrivain qui a écrit énormément de très belles choses. Et effectivement, The Storyteller, qui est notre film d'ouverture, c'est basé sur une nouvelle qui s'intitule The Storyteller, avec un personnage récurrent. Il a fait beaucoup de recueils de nouvelles avec des personnages récurrents et des aventures. C'est quelque chose qui est très propre à l'atmosphère de Kolkata de cette période-là. Dans les années 80-90, c'est passionnant, c'est un beau regard sur la société et c'est un beau regard sur l'écriture et sur comment narrer les histoires. Est-ce que j'ai encore le temps de parler d'autres films?
Oui, alors justement, je voulais parler de Little Jaffna.
Oui, moi aussi. Ça se passe à Paris.
Oui.
Ça se passe à Paris, c'est oui, c'est sur la communauté sri-lankaise. Le réalisateur vient vendredi 25.
Laurence Baline.
Voilà, il sera présent donc pour cette avant-première, puisque le film sort en salle ensuite, quelques jours après.
Mercredi 30 avril.
Voilà, il sera à l'ABC ensuite. Donc venez le voir pour rencontrer le réalisateur. J'ai le droit de parler d'autres films?
Mais oui, allez-y, bon. Il reste
alors
encore un peu de temps.
J'aimerais parler du film de clôture dont on n'a pas donné le titre.
Ah
ben
oui,
fait,
justement.
Il ne nous a été confirmé hier soir. C'est un grand soulagement. C'est un film de Boman Irani qui est très très connu en tant qu'acteur de Bollywood et qui signe là son premier long métrage. C'est un monsieur qui doit avoir dans les 60 ans et qui signe son premier long métrage, un long métrage très 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 fin sur les relations père-fils. Et j'aimerais aussi parler, je ne peux pas parler tous, mais au moins de Bong, qui est le jeudi soir à 20h30, qui est un premier film aussi d'une réalisatrice et qui se passe dans le nord-est de l'Inde, au Manipur. Et j'aimerais le dire parce que ce n'est pas souvent qu'on a cette opportunité. C'est un film qui est vraiment famille pour peu que les enfants acceptent de lire les sous-titrages. Les deux personnages sont des enfants et c'est un très beau regard de l'enfance sur la famille, sur les conflits de la société, sur l'immigration, sur le racisme aussi. Tous les ostracismes, etc. De quoi je peux parler en quelques secondes. Le samedi à l'ABC, nous avons Farming the Revolution en plus de Rhythm of Tamam et de Queen of My Dreams. The Queen of My Dreams, on le présente avec le Festival Diam, des images homo. Et Farming the Revolution, c'est un film documentaire qui représente, qui suit en fait la marche des paysans en 2022, la marche des paysans sur Delhi. Parce que pendant le confinement, et oui, chez eux aussi, on a fait passer quelques lois qui ne convenaient pas vraiment et qui n'aidaient pas vraiment les agriculteurs. Et donc, ils ont entamé une marche avec leurs tracteurs sur plusieurs centaines de kilomètres sur la capitale. Ce film documentaire retrace cette marche et était là, les a filmés pendant tout ce temps-là.
Alors, il faut aller au Pathé Wilson pendant le Festival des cinémas indiens. Il faut aller au cinéma ABC. Et faut-il comprendre le cratère quand vous dites Saint-Michel?
Pas du tout. Alors, je suis désolée. Ça aurait pu, hein, mais non. Et en plus, j'ai un scoop. On est désolé. Il y a un incident technique qui fait qu'on ne peut pas projeter à Saint-Michel. C'était l'ancienne chapelle Saint-Michel qui ne peut pas être mise obscure. Donc, on a été obligé de changer. Donc, le premier jour, on a deux jours pour les courts-métrages. L'après-midi, le premier est à la médiathèque Grand M, desservie par le métro. Et le deuxième est dans la salle. Alors, c'est une salle nouvelle qui est du côté de Montaudran, la salle du chemin de la Butte. Et on peut la rejoindre avec le L9 et le métro du côté Saouzelon.
Voilà, tout est dit. Toulouse Indian Film Festival en un seul mot.com si vous voulez accéder à toutes les infos du festival et le programme. Et sinon, dans n'importe quel lieu culturel de Toulouse, vous trouverez le programme papier.
Venez, venez, c'est nos 10 ans. On a très envie de vous voir.
Bah oui, nous aussi, on a envie de les fêter avec vous. Merci, merci d'être venu.
Merci à vous.
D'avoir passé cette heure avec nous, Frédéric Bianchi. 23 ou 27 avril, le Festival des cinémas indiens de Toulouse. Laurent, quels sont vos coups de cœur?
Les coups de cœur, ce sera pour Le Mélange des genres, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, le film thaïlandais, et bien sûr le cinéma indien du 23 au 27 avril.
La réparation, Lettres siciliennes, la cinémathèque, le film Noir, la galaxie, Varda, et évidemment le festival des cinémas indiens jusqu'au 27 avril, Toulouse Indian Film Festival.com.
Eh bien moi, je veux savoir comment on peut devenir riche grâce à sa grand-mère. Pareil que vous, Laurent. Les lettres siciliennes aussi me plaisent beaucoup. Et Sinners de Leanne Coogler, pas de temps de trop vous en parler, mais c'est un film qui mélange tous les genres et ça claque. La Cinémathèque, Film Noir et Galaxy Varda, et bien sûr, le Festival des cinémas indiens de Toulouse. Merci encore, Frédéric Bianchi. Merci, messieurs.
Bonne soirée.
Merci.
À mercredi.
Restez fidèles à la présence. À 20h, Nathalie Cardon, salut et à la semaine prochaine.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr.